Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé. C'est bon pour la santé.
C'est encore la fête ici et pourtant, on est bien en 2017, 4 janvier 2017. Bonne année à tous. Je vous la souhaite comme vous le désirez, c'est-à-dire avec tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Bien sûr, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, parce qu'il paraît qu'avec la santé et l'amour, le reste suit. C'est Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. C'est bon pour la santé, la première de 2017 sur Canal M, avec la voix un petit peu éraillée. Ça, c'est parce que les parties sont pas très loin derrière. Aujourd'hui, à l'émission La chronique de France Cardinal Rémette, infirmière, auteure et enseignante, sur l'importance de notre réseau d'aide lorsque l'on vit un épisode de maladie ou lorsqu'un proche vit avec la maladie aussi. Comment on définit ce réseau-là? Comment on arrive à communiquer nos besoins? Comment s'organiser? Eh bien, France sera en studio pour nous éclairer. Aussi avec Camille Marchand, conseillère aux événements spéciaux et en accessibilité universelle chez Adaptavie, on part de la 7e édition du Challenge hivernal et de sports adaptés hivernaux. Cette année, les compétitions auront lieu du 22 janvier au 8 avril 2017, donc quand même une longue période, tout ça du côté de Québec et des régions avoisinantes. Aussi, Brian Michara, directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie et professeur au département de psychologie à l'UQAM, présente la première étude sur les comportements de personnes suicidaires réalisée grâce à des caméras vidéo. Imaginez-vous des caméras vidéo de surveillance dans le métro de Montréal, une étude qui pourrait contribuer grandement à la prévention du suicide. Et finalement, comment accompagner au quotidien des enfants qui vivent avec des allergies alimentaires, surtout dans la période de désensibilisation avec l'application Allos, mon avatar allergique, tout ça avec Dr. Philippe Bégin, lui allergologue, immunologue au CHUM et au CHU Sainte-Justine. Mais tout juste avant, la revue de presse de notre recherchiste Martin Fort. Bonne année, Martin Forgue.
Bonne année, Marianne.
On vous souhaite quoi?
De la santé, premièrement. Parce que comme tu disais en préambule, avec un peu de santé, un peu de bonheur, on va loin dans la vie.
Tout à fait. Et on en parle justement de santé, de ce qui s'est passé, notamment pendant la période des fêtes, lors de notre repos. On fait un retour sur la discussion que l'on avait le 21 mm-hmm. décembre dernier, toi et moi, à savoir les transferts fédéraux en santé. Il y aurait eu un petit peu d'essoufflement pendant la période des fêtes.
Et oui, comme tu soulignes, l'actualité, elle, ne prend jamais de vacances. Et donc, je vous parlais juste avant de quitter pour la période des fêtes de ces négociations concernant les transferts fédéraux en santé. Bon, des négociations qui étaient, au point le plus bas. Les provinces qui avaient rejeté en bloc une offre du gouvernement fédéral qui, elle, je vous rappelais, était, elle prévoyait une hausse de 3,5% par année des transferts en plus d'un versement de 11,5 milliards de dollars sur 10 ans dans un fonds ciblé pour la santé mentale et les soins à domicile. Donc, cette offre qui avait été rejetée, on jugeait du côté des provinces qu'elle était insuffisante. On réclamait plutôt 5,2% de hausse de transferts fédéraux. Et évidemment, bon, j'en parlais un peu, le caractère ciblé du fonds de 11,5 milliards, eh bien, ça vient un peu empiéter sur les compétences provinciales en santé qui sont garanties par la Constitution. Alors, on avait l'impression du côté des provinces qu'on faisait front commun, mais durant les vacances, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve ont signé des ententes parallèles, des ententes séparées avec le gouvernement fédéral, ce qui vient un peu, évidemment, affaiblir la position des provinces en général. On s'est un peu indigné de ces ententes en catimini pour du côté de la plupart des représentants des autres provinces et des territoires du pays.
On continue à s'intéresser à ce qui se passe dans les différentes provinces du Canada. Là, on se dirige vers l'est du Canada, du côté de Terre-Neuve. Un homme qui a été médicamenté de force. On parle d'un homme qui vit avec de graves problèmes de santé mentale.
Une poursuite qui est à suivre. C'est un dossier qui pourrait être quand même très important pour la jurisprudence à venir, tout dépendant évidemment le verdict. Donc, je vous résume un peu l'histoire. C'est un homme, Marc Arsenault, un résident de Saint-Jean-Terre-Neuve, qui a reçu un diagnostic de schizophrénie. et qui a fait l'objet de ce qu'on appelle des ordonnances de traitement en milieu communautaire, c'est-à-dire des ordonnances de traitement forcées qui sont généralement réservées pour des cas très graves de santé, jugés très graves de santé mentale. Et bon, dans la poursuite, il dit que deux travailleurs de la santé se sont présentés chez lui en janvier l'an dernier pour lui administrer un médicament contre son gré. On soutenait qu'il était alors sous ce type d'ordonnance, mais il allègue qu'en septembre 2015, donc un peu moins d'un an avant l'événement, un juge avait invalidé cette ordonnance et donc ça rendrait l'intervention illégale. Et donc, M. Arsenault réclame des dédommagements ainsi, et un peu plus loin, la fin de ce type d'ordonnance. Et, mais par contre, évidemment, il y a toutes sortes de nuances à amener dans ce type de dossier-là. On souligne que les OTMC peuvent constituer une bouée de sauvetage lorsque la psychose s'installe chez ce type de patient. Mais on dit aussi qu'elles doivent être extrêmement encadrées. On doit respecter avant tout les droits fondamentaux des patients. Et ça relance évidemment le débat sur le consentement en ce qui a trait à la prestation de soins. Donc, évidemment, lorsque le jugement sera rendu, ce sera intéressant de voir quelle sera la conséquence sur la législation, que ce soit à Terre-Neuve ou même voir l'impact sur la législation fédérale.
Tout à fait, un dossier à suivre. On poursuit en ce qui a trait à la santé mentale et celle de nos réfugiés syriens. Si on retourne en arrière, Martin, ça fait à peu près un an là, qu'ils sont arrivés pour la plupart d'entre eux et l'intégration ne se ferait pas aussi facilement qu'on le souhaiterait.
C'est-à-dire qu'on est rendu à une autre étape et là, la première étape, évidemment, c'était de les recevoir, d'investir pour leur procurer un logement, pour leur procurer les ressources dont ils ont besoin pour s'intégrer. Et là, on arrive à une autre étape. Et là, c'est le directeur du Centre d'aide aux victimes de torture de Toronto, M. Muguleta Abay, qui tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le manque de ressources pour les soins en santé mentale. Inutile de rappeler que dans le cas des réfugiés syriens, et on rappelle aussi qu'il y en a environ 30 000 qui sont arrivés au pays, eh bien, ils fuient une situation de guerre très intense. Donc, évidemment, l'impact psychologique non seulement de la guerre, mais aussi de la traversée vers le Canada a des conséquences, notamment des chocs post-traumatiques. Et donc, beaucoup ont besoin de soins psychologiques et on décrit le manque très important de ressources. Donc, on voudrait notamment des psychologues qui parlent arabe, des psychologues pour travailler spécifiquement avec les enfants, avec les femmes. On sait que c'est des clientèles en psychologie. Bon, le ciblage de clientèle peut devenir bénéfique pour de meilleurs soins de santé. Et on dit que si on ne donne pas ces ressources supplémentaires, ça pourrait créer des pressions dans le système de santé en général, donc des coûts supplémentaires. Et le corollaire de ça, accorder ces ressources-là maintenant viendrait alléger le système en général.
Notamment lorsque l'on pense aux enfants qui vivent aussi énormément de troubles d'anxiété. On parlait dans l'article que vous citez, Martin, de tout ce trouble avec l'attachement, le trouble d'attachement, les cauchemars, la nuit. Ces enfants-là entrent dans la vie et seront nos citoyens de demain. Si on peut s'attarder tout de suite à leur santé, bien sûr, ce sera bénéfique. En terminant, l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent, qui vit de nombreuses coupures budgétaires en matière de santé.
Bon, un bilan un peu triste là, pour ce qui a trait aux services de santé dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord également. C'est une année qui s'est déroulée, l'année qui nous précède, 2016, c'est une année qui s'est déroulée sous le signe de la décroissance. Donc, on parle de coupures des compressions de 17,2 millions de dollars. Ça a évidemment eu un impact très négatif, dont la perte de 70 postes au CI3S du Bas-Saint-Laurent. On a également réévalué le type de clientèle desservie par les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Et suite à ces nouveaux critères-là, eh bien, il y a maintenant 160 places vacantes depuis plusieurs mois déjà. Et bon, évidemment, ça crée des pressions sur les ressources parallèles hors système. Et c'est une situation qui est décriée, évidemment, par le syndicat, l'Alliance du personnel professionnel et technique en santé et services sociaux, qui voudrait évidemment qu'on poursuive la prise en charge à l'intérieur de ce système-là pour pas trop affecter justement toutes ces ressources
et les services,
toutes ces ressources, donc les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les aidants naturels également. On sait que ces derniers ont aussi un gros manque à gagner au niveau des ressources. Donc, encore une fois, un dossier qui sera à suivre, à voir la poursuite de l'impact et aussi à voir comment tout ça sera géré.
Et on le fera avec vous parce qu'on vous garde pour les prochains mois en 2017. Martin Forgues, bonne année et de la santé, comme vous l'avez demandé.
Espérons-le.
Docteur Philippe Bégin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allergologue, immunologue au CHUM et à l'hôpital Sainte-Justine. On est là pour parler d'Alos, qui est un avatar allergique, mon avatar allergique, qui est aussi récipiendaire d'un prix assez important, Grand Prix Santé, du côté du Coopératon 2016, qui vise à souligner l'innovation en matière de santé. Docteur Bégin, mon avatar allergique, Alos, c'est une application mobile qui accompagne l'enfant dans son quotidien. Pas n'importe quel enfant, des enfants qui vivent avec des allergies alimentaires. Et je pense que Alos, ça vient pas de nulle part. C'est pas un hasard que vous ayez choisi ce nom-là, ce terme-là.
Ben, en fait, Alos, ça vient de la racine grecque de allergie. Donc, l'allergie, ça vient de Alos ergon. Donc, Alos, c'est l'autre, ergon réaction, donc la réaction à l'autre. Donc, on a choisi Alos, puisque le but, en fait, c'est que les enfants puissent vivre sans la réaction, donc sans les allergies.
Oui. Parlez-nous un peu de cette application mobile, Dr Bégin. Premièrement, de quelle façon cette idée a pu naître en vous, là, de mettre sur pied cette application mobile?
Bien, en fait, à Saint-Justin, on est en train de mettre sur pied une clinique d'immunothérapie orale qui est un nouveau traitement pour désensibiliser les allergies alimentaires qui consiste à superviser les enfants dans la prise quotidienne de leurs aliments, en commençant des micro-doses qu'ils vont manger tous les jours à la maison, puis en augmentant progressivement. Dans le cadre de ça, on a décidé de se joindre au Coopératon de Montréal en 2016, qui est un hackathon, dans le fond, un centre où est-ce qu'on va réunir des hackers de bonne intention pour trouver des solutions technologiques à des problèmes. Et nous, notre plus gros problème avec ce projet-là, c'est la supervision puis l'encadrement des patients à domicile. Alors, l'application, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle propose à l'enfant un avatar sous forme d'un petit chien qui va prendre les doses en même temps que l'enfant. Donc, il va nourrir les arachides, par exemple, à son petit animal. Et puis, s'il y a des réactions, il va pouvoir le dire à son animal. Il va avoir des rappels intégrés. C'est le temps de prendre ta prémédication. C'est le temps de prendre tes arachides. Et en direct, ces données-là vont être transmises sur un serveur sécurisé à l'hôpital pour que l'équipe clinique puisse faire le suivi en direct de tous les patients qui sont suivis par la clinique.
Docteur Bégin, vous en avez tout plein des petits patients qui vivent avec des allergies alimentaires. Pour un petit, ça peut être lourd, bien sûr, au quotidien. Pour ses parents aussi, évidemment, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Comment ça a été reçu à l'os auprès des familles que vous suivez?
Bien, initialement, en fait, ça a été développé avec des familles qui sont impliquées dans les projets de désensibilisation. Fait qu'on a fait une sorte d'atelier pour voir un petit peu c'était quoi leurs besoins. Puis beaucoup, ce qui revenait, c'est on a besoin de sentir qu'on est en contact constant avec l'équipe traitante quand on fait ça. À préciser, Alos, c'est vraiment pour supporter les patients qui sont en traitement de désensibilisation.
Okay.
C'est pas pour tous les patients avec allergie au quotidien. Quoique ce serait une autre idée à développer.
Ben vous
pour
voyez.
Le coopératon de l'année prochaine.
et pourquoi c'était important? Bon, j'imagine parce que, de prime abord, ça s'adresse à des petits, à des enfants, que ça soit ludique. Est-ce que c'était une façon que ça devienne un outil utile et durable dans le quotidien puis dans la vie de l'enfant?
Absolument. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait aider l'enfant à s'engager dans son traitement. Fait que du coup, l'idée m'est venue. En fait, je me rappelais des Tamagotchi quand j'étais plus jeune, qui étaient assez addictifs. C'est un Tamagotchi d'allergie. Puis l'autre chose aussi, on veut qu'il s'engage dans son traitement, mais nous, de notre côté, comme cliniciens, si on veut avoir des données fiables, il faut que les gens utilisent l'application.
Ouais.
Fait que c'est utile pour le patient, pour avoir les rappels, pour pouvoir avoir un contact avec l'équipe traitante, mais pour nous aussi, pour être capable de suivre plusieurs patients en temps réel.
Mm-hmm. Où est Alos en ce moment, mon avatar allergique, en termes de développement, Dr Bégin?
Donc, ce que c'est un hackathon, pour ceux qui ne savent pas, c'est on a 48 heures, on se rencontre et puis il faut monter l'application. Dans le cas d'un coopératon, on avait 3 semaines pour monter un prototype de l'application. C'est vraiment le prototype qui a gagné le prix. Là, actuellement, on est en train de travailler l'équipe de développeurs qu'on a mis sur pied là-bas et Sainte-Justine pour les prochaines étapes de développement. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que d'ici un an, on aurait une première version fonctionnelle. C'est sûr que c'est plus que seulement une application mobile. Il y a des aspects de confidentialité par rapport aux données de patients. Donc, faut être capable de se loguer sur une base de données
sécuritaire,
sécurisée exactement dans l'hôpital. Donc, il y a de l'architecture informatique à monter. Mais on croit qu'en un an, on devrait être capable d'avoir un produit fonctionnel.
L'un des avantages, j'imagine, Dr Bégin, c'est de pouvoir suivre, bon, on le comprend bien, des patients, des familles à distance, mais aussi un peu partout en province et au Québec. Vos patients, vos familles, ils ne viennent pas toutes de Montréal. Elles ne peuvent pas nécessairement avoir accès toujours à vous, au CHU Sainte-Justine, de façon aisée. Donc, ça permettra une meilleure visée ou un meilleur accès à ces familles-là.
Absolument. C'est un des gros challenges. L'allergie alimentaire, c'est fréquent. Il y en a partout dans la province. Si on veut déployer une offre de service en désensibilisation, il faut trouver une façon de superviser et d'encadrer tous ces patients-là. Donc, même si quelqu'un ferait une désensibilisation avec son médecin à Rimouski ou à Chicoutimi, bien, cet outil-là permettrait, par exemple, une infirmière pivot qui est à distance de faire le suivi de l'ensemble des patients.
Mais dites-moi, la désensibilisation, ça permet quoi chez l'enfant allergique ayant une allergie alimentaire?
Bien, initialement, le premier avantage, c'est qu'en commençant les microdoses, en les intégrant progressivement, on va se trouver à protéger l'enfant contre des accidents potentiels. Ensuite, plus on augmente les doses, bien, il pourra se trouver à être capable de réintégrer l'aliment dans sa diète quotidienne.
Ah, oui.
À ce moment-là, bien, ça a un gros impact sur la qualité de vie parce que l'enfant n'a plus besoin et les parents n'ont plus besoin de vivre en crainte constante qu'il pourrait avoir une contamination puis de se ramasser à l'urgence ou à utiliser l'adrénaline. Mmh. Et puis, à long terme, on sait qu'après 3 à 5 ans, il y a entre 50 et environ 50 % des patients qui vont être capables d'arrêter leur traitement de désensibilisation, c'est-à-dire la prise quotidienne de l'aliment, puis vont maintenir le bénéfice. Donc, ce qui se rapproche le plus d'une guérison d'allergène.
Oui, c'est majeur, ça.
C'est majeur. Puis plus on ferait tôt, plus les résultats seraient bons à cet égard-là.
Oui. Bon, on comprend que à l'os, mon avatar allergique est en développement. Vous prévoyez à peu près un an. Après, ça va être distribué de quelle façon? Ça va être disponible de quelle façon?
Donc, c'est sûr que ça, c'est des choses qui restent à déterminer. Le plan qu'on aimerait développer, c'est que l'application elle-même serait à la charge, disons, des centres hospitaliers ou des professionnels qui l'utilisent pour que les patients, eux, puissent l'utiliser gratuitement.
Dans les équipes de professionnels de la santé, des immunologues ou des allergologues comme vous.
Exactement. Donc, au Québec, par exemple, ben, ça ferait partie de la dans nos frais de gestion. Si on voulait éventuellement peut-être la commercialiser aux États-Unis, ben, ce serait des cliniques qui pourraient peut-être, évidemment c'est hypothétique à ce stade-ci, mais qui pourraient se payer des licences pour l'utiliser.
Ouais. En terminant, Philippe Bégin, ça a représenté quoi pour vous de remporter le Grand Prix Santé du côté du Coopératon 2016?
Ben, c'est sur le coup, c'est tellement d'adrénaline, un hackathon là, qu'on réalise pas trop. Mais honnêtement, je crois que le plus important, c'est la validation, c'est la reconnaissance que le travail qu'on fait compte, puis est important, puis que les gens le reconnaissent.
Oui, je pense que alors, c'est mon avatar allergique et toutes vos démarches, Dr Philippe Bégin, est supportée par le blog Bye Bye Allergie. Est-ce que je me trompe?
Oui, fait que Bye Bye Allergie, c'est un groupe de parents, en fait, qui s'est formé pour, justement, leur premier but, c'est de faire une levée de fonds pour que la clinique puisse voir le jour. Donc, Ce qu'il faut comprendre avec les allergies alimentaires, c'est que, ben, actuellement, le traitement, c'est qu'il n'y a pas de traitement.
Oui.
Donc, on n'a pas de fonds de roulement. Donc, si on veut développer un nouveau traitement, ça prend des nouveaux investissements. Et puis, ben, dans le public, évidemment, ça peut être long à débloquer des fonds pour ça. Donc, ils se sont mobilisés, les parents, pour faire une levée de fonds pour venir en aide pour qu'on puisse ouvrir cette clinique-là le plus vite possible.
Byebyeallergie.ca, ça peut toujours être une ressource pour des parents curieux qui vivent cette réalité-là. D'aller faire un tour, ça peut être assez bien. Docteur Philippe Bégin, vous êtes allergologue, immunologue au CHUM et à l'hôpital Sainte-Justine. Bonne année 2017 à vous. Ça a été un plaisir de vous parler. Bon succès pour la continuité de Allos, mon avatar allergique.
Merci beaucoup. Bonne année.
Au revoir. Brian Michara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie et professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. On est là pour parler ensemble d'une étude, une première étude que vous avez menée sur les comportements de personnes suicidaires réalisées grâce à des caméras de surveillance dans les métros de Montréal. Ce que l'on apprend en étant en contact avec cette étude-là, en premier lieu, c'est de se rendre compte que, bon, il n'y a aucune bonne méthode là, pour mettre fin à ces jours, évidemment, mais le métro n'en est pas une, très certainement.
Certainement pas. La dernière année, en 2015, moins d'un quart des personnes qui ont fait une tentative dans le métro sont mortes et en général, c'est le deux tiers qui vont survivre et souvent avec des blessures assez graves.
Oui. Cette étude, vous l'avez entamée en 2010, de 2010 à 2013. Pourquoi cette envie de mettre des caméras de surveillance dans les métros de Montréal pour évaluer ou observer des comportements suicidaires? Quels étaient les objectifs?
Mais en effet, les caméras existent déjà dans toutes les stations de métro, mais l'objectif, c'est de savoir si on serait en mesure d'identifier des personnes à risque avant que quelqu'un saute ou fait une tentative afin de pouvoir arrêter le train ou intervenir ou offrir de l'aide à la personne à risque.
Oui. C'était une façon de former aussi les employés du métro de Montréal.
Oui, avec des nouveaux trains de métro, maintenant, les chauffeurs sont capables de voir aussi ce qui se passe dans les prochains arrêts. Donc, maintenant, il y a de plus en plus de personnel qui sont formés, qui sont dans les stations de métro aussi.
Oui. Brian Michara, puisque ces caméras, comme vous l'avez mentionné, étaient déjà présentes dans les métros de Montréal, est-ce que c'était une raison pour vous d'installer cette étude dans ces lieux-là? Ça facilitait le processus?
Oui, mais en effet, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a des indicateurs fiables qui des comportements de quelqu'un avant de faire une tentative. Et on a pu identifier un nombre de comportements des personnes qui, avant leur tentative, qui peuvent être des indicateurs. Donc, on a fait deux études. On a fait une première étude. On a juste regardé l'arrivée de la personne dans la station jusqu'au moment de la tentative pour un peu voir comment cette personne se comporte.
Ouais. Et quels sont les indicateurs récurrents que vous avez pu observer?
Mais on a trouvé beaucoup de caractéristiques, mais on a dû faire une deuxième étude pour valider si ces caractéristiques sont aussi présentes pour les personnes qui ne sont pas suicidaires. Par exemple, généralement, la personne qui va se suicider a l'air déprimée ou angoissée, mais il y a plein d'autres personnes qui ont l'air déprimées, qui prennent le métro. Cependant, certains comportements, par exemple laisser un objet et s'éloigner du objet, enlever un manteau, laisser un sac, ce sont des comportements qu'on trouve vraiment seulement chez les personnes qui vont faire une tentative. En effet, on a fait une deuxième étude où on a pris des enregistrements où il y avait quelqu'un sur gay qui allait faire une tentative de suicide. Et d'autres prises, des même caméras, à un moment, il n'y avait personne suicidaire. Et comme ça, on a pu éliminer les comportements qu'on trouve chez d'autres personnes aussi.
Oui. Ces indicateurs-là, lorsqu'on, comme on le mentionnait là, tout à l'heure, peuvent aider les employés de métro à bon, cibler des comportements plus à risque. Mais l'objectif et la difficulté, Brian Michaha, c'est de les détecter rapidement, ce qui n'est pas toujours aisé pour ces employés-là.
Oui, mais c'est peut-être éventuellement serait possible même d'avoir un logiciel qui étudie en temps réel ce qui se passe dans les caméras pour les signaler. Mais dans la deuxième étude, on a juste pris quelques minutes avant la tentative et on a pris des personnes qui n'étaient pas très formées pour pouvoir les identifier. On a trouvé d'autres choses aussi qu'on n'attendait pas tellement trouver fréquemment. Par exemple, il y avait 75% des personnes qui ont fait une tentative qui avait des indications d'ambivalence. Il y avait des personnes qui sont entrées dans la station, ensuite sont sorties, hésitaient, sont retournées, attendent que plusieurs trains passent. Et il y a un grand nombre de personnes, et honnêtement, ça m'a donné des frissons, qui, après avoir sauté, essayent sans succès de remonter.
Oui, bien sûr, ça peut amener tellement de douleur et d'incompréhension d'observer ces vidéos, de voir l'ambivalence de ces gens et de voir aussi leur changement d'idée, parfois, bon, qui arrive trop tard. Brian Michaha, ce qui est intéressant aussi chez Crise, en fait, le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie que vous dirigez, c'est que vous avez aussi fait des entrevues avec des survivants de tentatives de suicide. De discuter avec ces gens-là, qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir sur leur profil, puis sur leur aussi, bon, sur la prévention, là, parce que c'est toujours ça que l'on tente de faire?
Oui, mais en effet, on voulait savoir pourquoi les gens choisissent le métro. C'est une étude qu'on n'a pas encore publiée, c'est pas encore tout à fait terminé, mais il y a des choses qui nous a beaucoup frappées. Le nombre de personnes qui étaient surprises de toujours être en vie et avoir des blessures assez graves, parce que quand je viens de mentionner, la grande majorité des personnes vont survivre à une tentative dans le métro, mais souvent avec des graves blessures. Mais les gens ont souvent dit qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir immédiatement, sans douleur, et certainement, et c'est pas le cas.
Et il faut le rappeler, c'est assez important. En terminant rapidement, Brian Michaha, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que la baisse de suicides dans les métros est assez signifiante.
Oui, c'est très important, et c'est important aussi de continuer. Le maître est en train d'étudier toutes sortes de façons de prévenir les décès par suicide. Mais les personnes qu'on a interviewées à l'hôpital après étaient presque toujours très contentes.
Tant mieux qu'ils soient restés en vie. Brian Michaha, bonne année, merci de nous avoir parlé.
Bonne année, merci beaucoup.
Au revoir. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous. Tout à l'heure, France Cardinal Remet, infirmière, auteure et enseignante, nous livre sa chronique sur l'importance du réseau d'aide lorsqu'on vit avec une maladie, lorsqu'un proche vit avec une maladie. Ce réseau d'aide, comment on le définit, comment on l'organise, comment on communique nos besoins aussi à notre famille, à ceux qui nous aident. Si l'on vit nous-mêmes avec une maladie, il faut vraiment faire partie, et ça, France nous le rappellera, c'est important. Faire partie du processus de décision. On l'attend dans une quinzaine de minutes, mais avant, on se tourne du côté de Québec. Camille Marchand est avec nous. Elle est conseillère aux événements spéciaux et en accessibilité universelle chez Adaptavie. Bonjour, Camille Marchand.
Bonjour.
Bonne année à vous.
Eh bien, merci. Bonne année aussi à vous aussi.
On vous souhaite quoi, Camille Marchand?
Ah, juste de la santé.
Ah, c'est ce que tout le monde dit. Je pense que c'est la base, en fait. Le reste suit, comme on dit. On parle avec vous, Camille, du challenge hivernal et de sports adaptés hivernaux aujourd'hui. Le challenge hivernal, ce sera la 7e édition cette année. Ça se passe du 22 janvier au 8 avril 2017. Et ce qui m'a frappée d'entrée de jeu, c'est la longue période. Pourquoi une aussi longue période en ce qui a trait au challenge hivernal?
Ben en fait, avec le challenge hivernal, on essaie vraiment là d'atteindre le plus de gens possible. Puis on se fie toujours dans le fond au calendrier d'autres événements qui existent. Puis nous, on tient à ce que ce soit toujours sur les fins de semaine. Donc c'était pour ça, là, on étire ça sur plusieurs fins de semaine pour que. Puis d'ailleurs, il y a des athlètes aussi qui participent à plusieurs, qui font plusieurs sports. Donc on aime ça leur permettre là, de pouvoir participer à toutes les compétitions là, qu'ils ont envie. Là. On se joint aussi à des fêtes d'hiver de quartier. Donc ces fêtes-là, c'est pas nous qui décidons des dates non plus. Donc c'est pour ça là, qu'on s'étend sur une longue période.
Longue période, plus de plaisir. On pourrait résumer ça comme ça, Camille Marchand. Maintenant, il y a plusieurs objectifs derrière ce challenge hivernal, mais peut-être le premier et le plus important, c'est de faire bouger les personnes qui vivent en situation de handicap.
Oui, tout à fait. Donc, nous, là, notre principal objectif, c'est vraiment de créer un rassemblement pour les gens qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, il n'y a pas beaucoup d'événements au Québec qui sont adressés juste uniquement à ces personnes-là. Mm-hmm. Et nous, avec le challenge hivernal, ben, on permet de leur offrir une opportunité vraiment de compétition, puis aussi de leur faire découvrir des nouveaux sports d'hiver adaptés. Donc, pour qu'ils puissent rester vraiment actifs toute l'année, surtout l'hiver, là, on en entend moins parler des sports d'hiver. Donc, nous, ça, c'est un de nos principaux objectifs. Puis aussi, c'est vraiment de sensibiliser la population aux sports adaptés, là, de les faire voir, de les faire connaître, de les faire essayer les sports adaptés pour vraiment voir que ces gens-là, ce sont des athlètes, des véritables athlètes.
Oui. Si je comprends bien, Camille, il y a une partie de compétition, mais il y a aussi l'expérimentation, le loisir, et le plaisir, là. Il y a deux grands volets au challenge hivernal.
Oui, tout à fait. Puis ce volet-là d'expérimentation est très important pour nous parce que c'est ce qui fait amener d'autres gens justement à venir par la suite à nos compétitions, s'ils ont eu la piqûre, à vraiment devenir des élites dans ce domaine-là. Là.
Oui. Il y a combien de disciplines cette année, Camille?
Cette année, on est à 12 disciplines. Donc, 13 disciplines. Puis, dans le fond, c'est ça, on en a une seule qui est nouvelle, qui est le hockey pour tous, là, qui est pour les gens là, qui ont un trouble envahissant du développement ou vraiment pour d'autres types de limitations connexes. Donc, on a une seule nouvelle discipline, mais c'est sûr que là, dans les dernières années, on en a développé beaucoup. Donc, à un moment donné, on ne peut pas en inventer non plus. Là.
Oui, tout à fait. Donc, 13 disciplines, dont le hockey pour tous, d'autres qui fonctionnent bien du côté du challenge hivernal, des disciplines.
Oui, bien, en fait, là, on a le hockey sur luge, qui est une de nos grosses fins de semaine, là, qui est la dernière, en fait, là, la fin de semaine du 7 avril, qui va attirer environ 200 athlètes là, partout au Québec, en fait. Donc ça, c'est une grosse compétition que nous, on accueille. On a aussi, là, dans les dernières années, le curling pour personnes qui ont subi un traumatisme crânien en collaboration avec les associations de partout au Québec qui voient vraiment un engouement pour ce sport-là. Là. C'est vraiment deux de nos grosses compétitions là, cette année.
Donc, des gens qui vivent avec des déficiences physiques, intellectuelles, vous avez parlé de troubles du spectre de l'autisme. Il y en a pour tous. Donc, on parle bien sûr d'intégration, d'ouverture à tous. Vous attendez combien d'athlètes, Camille, cette année?
Cette année, on vise à peu près la même chose que l'année dernière, là, c'est-à-dire 850-900 athlètes. On essaie d'être quand même raisonnable dans nos chiffres puisque, comme je vous l'ai dit là, tout à l'heure, c'est sûr que dans les dernières années, on a développé beaucoup, beaucoup de nouveaux sports. Cette année, on a moins de nouveaux sports, mais on essaie justement quand même de garder là, une petite augmentation là, dans notre participation.
Oui. Qui peut s'inscrire? On a pu le voir un peu. Est-ce que c'est encore le temps de le faire?
Oui, en fait, les inscriptions viennent tout juste de débuter, là. Donc, nous, en fait, on invite toutes les personnes qui sont intéressées à visiter notre site Internet là, au www.challengehivernal.org. La plupart des gens qui vont participer aux compétitions, soit récréatives ou compétitives, c'est des gens qui pratiquent déjà des sports via des clubs existants. Si jamais les gens sont intéressés, par contre, on offre plusieurs initiations, puis ils pourraient même juste venir voir, venir rencontrer les gens, les responsables, les entraîneurs, pour voir si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser par la suite. Ça fait qu'on les invite quand même à toutes nos compétitions, là. Puis ils peuvent nous contacter s'ils veulent en savoir plus également.
Parmi les retombées positives de l'événement, Camille, j'imagine qu'il y a des gens qui, dans les années antérieures, sont venus pour expérimenter et qu'à travers les années, ont fait partie des compétitions.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une de nos grosses retombées là, du challenge. En fait, l'augmentation de la participation sportive chez ces gens-là, en fait, résulte vraiment du fait qu'on a fait des démonstrations, des initiations. Les gens ont aimé. On les a référés vers des clubs existants locaux dans leur région. Puis par la suite, ben ils en ont reparlé. Mm-hmm. Puis ils ont eu l'engouement. Puis ils viennent participer au challenge.
Oui.
Il y en a d'autres qui vivent une expérience de compétition tout à fait incroyable pour eux. Puis qui repartent dans leur région avec cette image-là positive du sport adapté. Qui en parlent. Puis là, ça fait boule de neige. Fait que les gens veulent y goûter eux autres aussi.
Oui. Mais justement, parlons-en des régions, parce que le challenge hivernal se déroule du côté de Québec, puis bon, pas simplement ou seulement la ville de Québec, mais d'autres villes avoisinantes. Mais qu'est-ce qui se passe pour les autres régions? On le mentionnait tout à l'heure, Camille, lorsqu'on parle de sport adapté, déjà parfois l'offre est plus mince, mais là, sport adapté hivernaux, pour des personnes en situation de handicap, ça peut être encore plus difficile d'être actif pendant cette période-là de la année, comment on peut en parler davantage, mais comment aussi rendre plus accessibles ces sports adaptés hivernaux aux personnes en situation de handicap?
Oui, bien en fait, c'est sûr qu'en faisant des initiations, puis tout ça, ça permet de faire découvrir, puis ensuite, tu sais, c'est une roue qui tourne. Si les gens sont intéressés, qui lèvent la main, qui disent « moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça », ils doivent rentrer en contact avec les associations, soit les associations régionales de loisirs pour personnes handicapées qui ont dans leur région, qui en a dans toutes les régions, en fait, ou ça peut être dans leur association spécialisée, par exemple, des associations de personnes traumatisées crâniennes, doivent lever la main et dire « moi, ça m'intéresserait un tel programme », parce qu'on part, souvent, on va partir de 4-5 personnes qui sont intéressées, on commence tranquillement, puis là, une fois que c'est l'engouement a commencé, bien là, il va y avoir des choses concrètes qui vont se créer. Là.
Oui.
Donc ça, c'est moi ce que je lancerais à tout le monde, c'est s'il y a quelque chose qui vous intéresse, parlez-en avec les associations de votre région, puis ensuite, il y a des choses qui peuvent se développer plus facilement.
Et ça peut s'organiser. Parfois, on a l'impression que la montagne est assez haute à grimper, mais c'est possible. Est-ce que Adapte ta vie peut aider les organisations ou des équipes à se construire avec un coach et toute l'organisation nécessaire?
Oui, c'est sûr que nous, on offre toujours du conseil à tout le monde qui nous le demande. C'est ce qu'on fait là avec des clubs que nous, on a accueillis chez nous. Puis c'est toujours plus facile quand il y a une organisation derrière. Comme nous, là, c'est Adapte ta vie qui est derrière le club de hockey sur luge de Québec. Donc, c'est toujours plus facile parce que quand les gens, ils ont fait le hockey sur luge, finalement, ils en font plus ou ils sont ailleurs, peu importe. Ça reste encore actif. Là, étant donné que l'organisation Adapte ta vie est en arrière pour prendre tout ça en charge.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que nous, on est là pour donner des conseils à tout le monde qui désirait là, partir là, quelque chose. Mais comme je vous dis aussi, les associations locales de loisirs personnes handicapées aussi, c'est dans leur rôle d'aider. Là.
Mm-hmm. Camille Marchand, quelle est la part réservée aux enfants, aux tout-petits, dans le cadre du challenge hivernal?
Certaines compétitions, comme encore une fois le hockey sur luge, s'adressent à des gens de 5 ans et plus. Mais il y a aussi, dans le fond, dans ce qui est des initiations, nous, on accueille des gens de tous les âges. Donc, c'est autant enfants qu'adultes qui sont invités à venir y participer. Puis, On va cette année aussi essayer de créer un engouement plus familial avec nos caravanes de sport adaptées, le Adaptavie RBC, en accueillant les familles, en invitant les familles à venir se joindre à nous.
Oui. On rappelle que les inscriptions ont débuté, challengehivernal.org. Vous ne refusez personne, Camille Marchand. Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour s'inscrire au challenge?
Oui, ben en fait, c'est sûr que dépendamment de la compétition, il y a une limitation par compétition habituellement qui est faite. C'est sûr que nous, il faut nos règlements et tout ça des compétitions sont présents. Donc c'est assez évident là, quand on va sur le site internet à qui ça s'adresse exactement les compétitions. Là. Mais c'est vraiment ouvert à tous.
Camille Marchand, conseillère aux événements spéciaux et en accessibilité universelle chez Adaptavie. Merci beaucoup. On vous souhaite un très, très bon challenge hivernal et j'espère justement que vous l'aurez la santé parce que près de 4 mois de challenge hivernal, ça risque d'être bien costaud.
Oui, tout à fait, mais c'est avec plaisir qu'on le fait.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Je suis en compagnie de France Cardinal, Rémette, infirmière, auteure, enseignante et surtout chroniqueuse pour C'est bon pour la santé. Bonjour France.
Bonjour.
Merci d'être là. Bonne année.
Bonne année.
On vous la souhaite en santé. C'est ce que je souhaite à tout le monde. De toute façon, c'est ce que tout le monde souhaite.
Ah, c'est sûr.
Parce qu'après, tout va pour le mieux lorsque la santé est là en premier lieu.
Parfait.
On parle aujourd'hui pour notre première chronique de 2017 du réseau d'aide. Et là, je veux bien mettre la table pour débuter. Le réseau d'aide, c'est autant pour la personne qui vit une maladie, un épisode de maladie, que pour son proche aidant.
Oui, parce qu'effectivement, on ne veut pas que la personne qui est proche aidante principale soit toute seule, isolée et qu'elle se brûle. Alors, écoute, avant de partir sur ce sujet-là, j'avais le goût de partager avec les auditeurs une citation qui me guide beaucoup, moi, dans ma vie. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors,
on reconnaît, hein? Saint-Antoine.
Oui, Antoine de Saint-Exupéry.
Oui.
Alors, cette belle citation bien connue prend tout son sens quand on aborde la question de l'aide offerte à un proche. Alors, même si on pourrait croire que cela va de soi, on s'attend à ce que les enfants s'occupent de leurs parents, tout ça, il faut comprendre que c'est quand même un grand engagement, qu'il faut beaucoup d'amour et aussi beaucoup de sagesse pour équilibrer sa vie à travers tout ça.
Oui.
J'étais moi-même proche aidante, tu te rappelles?
Oui.
On m'avait déjà partagé. Et moi, c'était dernièrement ma maman, puis je l'adorais. Puis j'étais surprise quelquefois de trouver ça exigeant.
Oui, et c'est encore plus à souligner, France, parce que vous êtes infirmière de formation.
Oui.
Donc, on pourrait penser, pour elle, ça va être simple, c'est sa vie, c'est son métier, elle a appris. Mais pas nécessairement non plus, parce que ça implique aussi des sentiments de l'engagement personnel.
Oui, et qu'on a tout le monde un quotidien à gérer, hein, et on a d'autres occupations, et on s'implique ailleurs, et tout à coup, bon, arrive un imprévu. Mais ce que je retire, moi, de mon expérience, c'est que tout l'amour que j'ai donné, il me semble que ça me revient actuellement, parce qu'elle est partie, elle n'est plus là maintenant, et ça me revient doublement. Alors, écoute, quand la personne apprend qu'elle est malade, qu'elle est atteinte d'une maladie chronique qui va se prolonger, on n'en connaît pas nécessairement l'issue, ce qui est important, c'est de bien communiquer avec son réseau.
Mm-hmm.
Alors, on dit l'ouverture, la simplicité et l'authenticité des échanges demeurent toujours les meilleurs alliés. Et si pour des motifs quelconques, les personnes décident de taire à leur entourage ce qui se passe quand ils apprennent un diagnostic, bien, il faut se rappeler qu'un jour ou l'autre, il va falloir en parler.
Bien
sûr. Il va falloir s'ouvrir.
Premièrement, le réseau d'aide, comment on l'identifie? On peut penser au conjoint d'entrée de jeu, mais c'est plus large que ça.
C'est plus large que ça. Moi, j'ai lu beaucoup. Hein, pour l'écriture du livre, évidemment, j'ai consulté énormément de littérature. Et c'est clair qu'il faut s'entourer. Il faut avoir ce qu'on appelle un réseau de soutien. Et ce réseau de soutien peut jouer beaucoup de rôles. Hein? Chaque personne a ses affinités avec tel aspect du soin. Une autre, c'est davantage social, au niveau social, qu'elle est plus apte à c'est donner vrai. De l'aide. Alors, j'avais préparé, moi, dans ce livre, des questions à se poser. Mm-hmm. Et je peux peut-être faire juste un résumé. C'est important de valider aussi les perceptions communes. Hein. Nous, on perçoit notre maladie d'une certaine façon, mais l'autre, comment le perçoit-il? C'est important de faire le point à ce niveau-là.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui sont très anxieux, qui vont aussi être très démesurés dans leur façon de percevoir. Je le sais, je le vis, moi, avec des amis qui vivent des choses actuellement. Des fois, je me dis, eh là là, la proportion est grande. J'essaie de ramener la personne, là, un jour à la fois, là.
Ouais. Et ça m'amène à dire le retour sur les connaissances, de s'assurer que le réseau sait de quoi on parle. Aussi, on parle d'un cancer ou d'Alzheimer. C'est quoi cette maladie-là?
Exactement.
Et qu'est-ce que ça peut impliquer?
Exactement. Alors, on peut même demander à un fils, une fille, un ami. Bon, parce que le réseau, ça peut être bien des gens, hein? Là, c'est pour qui c'est un voisin avec qui on a lié une amitié incroyable et qui va nous soutenir tout au long du processus, des fois davantage même qu'un membre de la famille.
Oui.
Mais évidemment, ça peut être le fils, la fille, un cousin, une sœur, un frère, etc. Alors, ces gens-là peuvent nous accompagner au rendez-vous puis valider l'information dont tu parlais tantôt, effectivement. Ils peuvent aussi avoir un rôle au niveau de la gestion du quotidien. L'exploration des ressources qui pourraient aider, hein, parce qu'à un moment donné, pas tout le monde a le temps de tout faire. Et il existe différents types de ressources. Et évidemment, il y a les CLSC qui connaissent les ressources communautaires, qui eux-mêmes peuvent offrir des services en complément. Alors, il faut aller explorer tout ça et souvent, on a besoin d'aide pour le faire.
Ouais.
Aussi, d'explorer avec les gens leurs propres préoccupations, hein, par rapport à ce qui survient, parce que la maladie, l'expérience de maladie implique, oui, un effet sur la santé, mais il y a aussi des retombées, hein, au niveau matériel, financier. Quelquefois, la personne travaille, doit quitter un travail. Qu'est-ce oui. que ça va impliquer?
Ça change beaucoup de paramètres oui, dans la vie.
Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut regarder ces aspects matériels, financiers, puis rassurer les gens ou trouver des solutions s'il y a des solutions à chercher. Et aussi, il y a des proches qui vivent à distance. C'est important de prendre contact avec eux puis de voir à quel moment on peut communiquer avec eux, comment on va le faire pour les tenir au courant oui. de ce qui évolue là, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où on voudrait qu'ils viennent tout près s'occuper de nous, par exemple, pour donner du répit au proche aidant principal? Ça pourrait être des questions qui se posent.
Oui. Il y a quelque chose d'assez important, et vous le soulignez souvent, France Cardinal Remette, c'est l'importance que la personne qui vit l'épisode de maladie soit au cœur de cet accompagnement-là et de ses soins. Elle doit prendre part aux
tout
décisions.
À fait, tout à fait. Elle doit s'engager dans ses soins et prendre part et prendre les décisions. Elle peut être accompagnée pour prendre les décisions, mais c'est à elle que revient la décision finale.
Oui.
Entre autres, par rapport aux options de traitement, par rapport aux options de choix de ressources pour soutenir la personne, par rapport aussi à l'option des soins palliatifs, parce que ça peut arriver dans plusieurs cas où la maladie chronique évolue tellement qu'on doit s'enligner vers une demande en soins palliatifs. Mais c'est à la personne elle-même que ça revient, oui. tant qu'elle est apte à prendre ses décisions, bien entendu.
Oui, et en l'occurrence, par rapport à son réseau d'aide aussi, est-ce qu'il est possible pour une personne malade de dire « je veux que tu m'aides pour ça » ou je préfère qu'une autre personne, même si c'est ma fille ou mon fils, ne soit pas inclus dans ce réseau d'aide?
Oui, c'est possible, c'est sûr. Donc, si la relation n'est pas saine, si la personne n'est pas en mesure de le faire pour toutes sortes de raisons possibles,
mm-hmm.
bien sûr, on peut se tourner vers d'autres personnes, mm-hmm. vers d'autres options. Et aussi, très important, le proche aidant principal, à un moment donné, il peut avoir besoin d'une période de répit. Bien, il existe des ressources hein, où la personne qui est atteinte peut aller en convalescence pendant une semaine ou deux semaines et revenir à la maison par la suite.
Oui, parce qu'il y a un phénomène quand même assez important auprès des proches aidants qui n'est peut-être pas encore tout à fait documenté, mais que l'on va voir surgir énormément, c'est qu'en ayant nos enfants de plus en plus tard, souvent on se retrouve avec un parent âgé et des enfants en
oui,
bas âge.
Oui, je suis contente que tu apportes ce point-là. Effectivement, j'avais remarqué, là, c'est un phénomène qui est émergent, là. C'est Francine Duchamp, qui est doyenne à la Faculté des sciences infirmières, qui le mentionnait. Elle dit que, étant donné que les gens ont des enfants plus tard, alors, ça fait que les enfants, à un moment donné, ont eux-mêmes des enfants, mais doivent s'occuper d'un parent qui est plus âgé.
Oui.
Alors, c'est ce phénomène, effectivement.
Ça amène un défi, et il y en a plein d'autres, des défis liés à l'accompagnement d'un proche. Souvent, on parle d'épuisement, c'est le premier, là, peut-être le premier impact qui nous vient en tête, mais il y en a plein, plein d'autres que l'on pourrait nommer.
Oui, effectivement.
Comme l'isolement, par exemple, les divergences d'opinion au sein d'une même famille.
Oui, oui, il faut faire attention à ça. Puis, ah oui, ce que je voulais absolument apporter par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide quand ça arrive. Quand on voit que c'est en train d'éclater, que la personne est fatiguée, qu'elle pleure souvent, n'en peut plus, devient irritable, elle est agacée facilement, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut aller consulter, aller chercher de l'aide, puis évidemment du répit.
Oui.
Hein, c'est important. Puis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à ses proches, à d'autres proches ou à des amis qu'on connaît, ou s'adresser au CLSC, au gestionnaire de cas qui s'occupe de la situation, ou à l'équipe de soins à l'hôpital où la personne peut être attachée, là, pour essayer de voir quelles sont les ressources disponibles pour l'aider.
Oui. France, qu'est-ce que l'on fait, je reviens là-dessus, lorsqu'il y a divergence d'opinion, c'est-à-dire des conflits au sein du réseau d'entraide entre le fils, la fille, le conjoint, sur différentes décisions là, auprès du proche qui est malade?
Je pense que c'est important de se faire accompagner par une personne en qui on a confiance, avec qui tout va bien. Si on se sent trop affaibli ou... parce que c'est pas évident. Il y a des gens qui sont très malades, hein, qui peuvent vivre des situations de conflit. Ne pas hésiter à aller chercher quelqu'un qui peut nous supporter, puis aborder la question avec la personne le plus possible. Il faut s'ouvrir, il faut valider. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu te sens comme ça? Est-ce que c'est le fait que je sois malade qui t'inquiète, qui te rend comme ça? Il y a différentes façons. Il y a beaucoup d'écrits là, à ce niveau-là.
Oui.
Mais là encore, si c'est vraiment très, très grave, on peut aller chercher de l'aide aussi à l'extérieur chez un professionnel qui peut aider à comprendre la situation, peut nous épauler. Mais souvent, une simple communication peut ouvrir bien des portes.
Oui, et, tout à fait. Oui. Et de déléguer, d'être capable de déléguer et de se dire, ben ça, c'est peut-être moins ma force, peut-être que je peux demander à quelqu'un d'autre pour m'aider avec la paperasse, par exemple, les documents à remplir pour les rendez-vous. Mais ça peut être à double tranchant. Est-ce qu'il y a un risque que l'information soit dispersée et que là, on arrive à avoir un moins bon suivi, là?
Bien, ce qu'on suggère, c'est d'avoir une personne qui coordonne tout ça pour nous. Hein. Mm-hmm. Soit nous ou soit une personne là, qui a un certain leadership dans la famille, leadership informel, là, qui a toujours pris les décisions. Ça peut être l'aîné hein, dans une famille qui va prendre en charge d'organiser tout ça. Il y en a qui vont se faire même des tableaux, hein, où ils vont écrire, bon, telle journée, telle personne va venir faire telle chose. Les emplettes, ça va être le jeudi, telle personne va le faire. Ce sont des espèces de tableaux d'organisation parce que en plus, il y a des gens de l'extérieur hein, qui peuvent venir, une infirmière qui vient une fois par semaine. Alors, il faut que tout soit organisé pour pas que les gens arrivent tous en même temps.
Ça organisation, communication, ça reste les bases, les clés finalement pour que ça se passe bien. Et aussi, ne pas s'épuiser.
Effectivement. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps
pour parler. Oui, encore une minute à peu près, oui.
Il y a différentes ressources. Il y a Aidant en réseau qui peut offrir des informations intéressantes, mais il y a aussi le regroupement des aidants naturels du Québec, le réseau Entre aidants. Il y a l'appui pour les aînés qui est très intéressant aussi à www.lappui.org. Il y a l'association aussi des petits frères. On n'en parle pas souvent, les petits frères qui vont aider des gens qui sont en soins palliatifs, qui sont isolés. Alors, on peut faire appel à eux et ils vont pouvoir offrir un certain niveau d'aide. C'est le www.petitfrère.asso.fr, site web pour les rejoindre.
L'isolement, ça peut être très pesant, évidemment, créer beaucoup d'anxiété. France Cardinal-Remette, merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve, nous, dans un mois.
Exactement.
Au revoir.
Au revoir.
Et on se dirige vers la fin de l'émission avec mon petit coup de cœur. Je vous parle d'un cadeau que j'ai reçu au cours de la période des fêtes. Peut-être le cadeau, et là, je ne devrais pas dire ça, là, mais bon, qui m'a procuré le plus de plaisir. Je ne l'ai dit pas fort. Et en plus, c'est peut-être le plus petit cadeau que j'ai reçu. C'est un petit bout de carton autocollant que j'ai pu mettre dans mon miroir qui vient d'une entreprise québécoise basée à Sherbrooke qui se spécialise dans la distribution, la création de produits qui, attendez bien, qui stimulent le bonheur, encouragent le positif. En fait, c'est basé sur la psychologie positive et motive le quotidien. Ça s'appelle Motivop, cette compagnie de Sherbrooke. Autocollants que l'on peut mettre, comme je le disais, dans un miroir, mais également dans les pare-brises des véhicules, dans les fenêtres. Et les messages qui y sont véhiculés sont tout simples, comme « crois en tes rêves, tout est possible, aie confiance en toi ». Moi, ce que j'ai reçu, c'est « t'es belle, t'es bonne, t'es capable ». Donc, entreprise créée il y a de ça quelques années, qui a vraiment attiré l'attention des dragons, vous savez, émission assez populaire ici au Québec en 2015. C'est Vicky Giroir qui est derrière cette initiative-là, qui, je trouve, réchauffe le cœur, ça remonte le moral. Ce sont de petites pensées qui sont toutes simples, qui sont positives. C'est assez discret en plus, le petit autocollant transparent, dans des lieux que l'on fréquente souvent, qui sont basés, bon, comme je vous le disais, sur la psychologie positive, sur une idéologie qui suggère aux gens de prendre soin de soi, de cultiver aussi des pensées au quotidien pour avoir une bonne attitude, une meilleure confiance en soi et bien sûr, l'objectif, c'est une meilleure qualité de vie. MotiveUp.com pour en savoir davantage. Évidemment, je les reçois en cadeau, donc je ne connais pas le coût de ce petit autocollant, mais évidemment, c'est peu cher, ça s'offre très, très bien en cadeau et en cadeau aussi à soi-même pour se faire du bien et se rappeler que l'on est probablement la personne la plus importante dans notre vie. Marianne, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Moi, c'est ce que je me souhaite, je pense, pour 2017, de belles pensées comme celle-là. Voilà, c'est ce qui met fin à cette première émission de 2017 de C'est bon pour la santé. Jean-Sébastien Laliberté derrière la console. Bonne année, mon cher. C'est Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna aux médias sociaux. Bien sûr, on vous invite à aller sur notre site vusezvoix.com et à nous écouter en balado-diffusion. Bien sûr, on est en rediffusion à 17h. On est bien présent sur Facebook, sur Twitter aussi, 1-800-361-0635, poste 220 pour nous joindre. Ça nous fait toujours plaisir. Marianne Paquette au micro qui vous salue. On se retrouve dans une semaine. Portez-vous bien et bonne année de la santé, évidemment.